Salut et bienvenue dans cette édition hebdomadaire de l'actu IA et coding. Cette semaine, une seule histoire a dominé tout le reste, et elle mérite qu'on y consacre le temps qu'elle demande. En l'espace de 36 heures, Claude Fable 5 est passé de lancement public à interdiction totale. Le gouvernement américain a émis une directive de contrôle des exportations qui a coupé l'accès au modèle pour tous les non-citoyens américains, y compris des employés d'Anthropic eux-mêmes, qui avait un passeport étranger. Fireship le formule sans détour dans sa vidéo. C'est la première fois dans l'histoire qu'un grand fournisseur d'IA retire un modèle public en direct sur ordre des autorités. Anthropic n'avait pas le choix. Impossible de vérifier la nationalité de chaque utilisateur en temps réel, donc ils ont tout coupé pour tout le monde. Deux lectures circulent sur ce qui a déclenché la chose, et elles ne s'excluent pas mutuellement. Version officielle. Des chercheurs d'Amazon ont signalé un jailbreak, le secrétaire au commerce Howard Lutnick a signé la directive. Ce jailbreak, décrit en détail par Fireship et AI Explained, n'a rien d'une prouesse technique. Quelques astuces Unicode, un peu de roleplay, une décomposition des requêtes sensibles en fragments anodins. Pas de la science-fiction. Anthropic n'a eu que 90 minutes de préavis sans explication précise sur la menace réelle. Mais AI Explained et Kyle Balmer soulèvent une deuxième couche, nettement plus politique. Pete Hegseth s'est mis à tweeter agressivement contre Anthropic juste avant la décision. Des proches d'OpenAI ont massivement financé le PAC de Trump. Anthropic, non. La Maison-Blanche avait affirmé que Dario Amodei était en retraite bien-être au moment des faits. Anthropic et un journaliste présent ont formellement démenti. Ce genre de détails ne passe pas inaperçu. Théo de T3.G a mis en lumière une troisième dimension, peut-être la plus inconfortable. Fable contenait dès le départ des garde-fous invisibles. Quand vous posiez des questions liées au développement de modèles d'IA de pointe, le système vous reroutait silencieusement vers Opus 4.8, un modèle moins puissant, sans vous le dire. Vous payez plein tarif pour une réponse dégradée, sans aucun feedback. Anthropic a fini par corriger ça sous pression, en rendant les fallbacks visibles. David Shapiro va plus loin dans son analyse. Ce comportement reflète l'ADN idéologique d'Anthropic, ses fondateurs très ancrés dans la culture « less wrong » et l'altruisme efficace, convaincus qu'il faut garder la main sur un kill switch si les modèles deviennent trop capables de s'améliorer eux-mêmes. Kyle Balmer précise ce que Fable était techniquement. Mythos 5 avec des classificateurs de sécurité supplémentaires, capables de travailler de façon autonome pendant des heures sans attendre de prompts individuels. Une façon de fonctionner radicalement différente des modèles précédents. AI Explained résume le paradoxe central. Le jailbreaking reste un problème non résolu. Aucun modèle n'y est universellement résistant. Et Amodei lui-même a plaidé auprès du gouvernement pour qu'il distingue entre un jailbreak étroit et spécifique et un contournement universel. À l'heure où cette édition est bouclée, des négociations sont en cours à Washington et un retour du modèle avec des contrôles renforcés était attendu dans le mois. Ce qui rend cette histoire plus qu'un simple fait divers réglementaire, c'est ce qu'elle révèle sur la structure de l'économie de l'IA. Kyle Balmer le dit explicitement. C'est la première fois qu'on voit clairement que l'intelligence de pointe devient un bien réservé aux utilisateurs solvables. Une nouvelle fracture numérique de classe. Nate Herc analyse de son côté le plan d'OpenAI Built to Benefit Everyone et l'appel parallèle d'Anthropic. Les deux labs demandent une instance externe capable de mettre en pause le développement frontière si nécessaire. Pas parce qu'ils voudraient aller moins vite, mais parce que la pression concurrentielle est trop forte pour s'arrêter seule. Unsupervised Learning débat longuement de la moralité de cette position. Est-ce illibéral ou simplement responsable? Les deux interlocuteurs ne trouvent pas de consensus, mais s'accordent sur un point. Un contrôle privé centralisé serait aussi dangereux qu'un contrôle étatique. Wolfgang Hirn apporte le cadre géopolitique dans une longue conversation sur Everlast AI. Huawei développe un procédé alternatif baptisé TOW qui vise une densité équivalente à 1,4 nanomètres d'ici 2031, ce qui saperait à terme le levier principal des restrictions d'exportation américaines sur les puces. Et Nate B. Jones, dans son essai sur le clonage vocal, tire le fil jusqu'à sa conclusion. La ressource rare de demain ne sera pas le contenu, ce sera le jugement et la responsabilité. Qui décide vraiment et qui assume quand ça tourne mal? Sur le plan de la stratégie industrielle, Nate B. Jones consacre 3 essais à une distinction qui mérite d'être comprise avant d'analyser les IPO d'OpenAI et d'Anthropic. D'un côté, les tokens, l'intelligence brute vendue à la consommation, qui tend vers la commodité. De l'autre, la harness, tout ce qui transforme cette intelligence en travail productif, gestion du contexte, évaluation, routage entre modèles, workflow. Sa thèse, celui qui contrôle la harness contrôle la valeur. Les IPO sont le premier test public de cette hypothèse. David Shapiro abonde dans le même sens en citant un article de Satya Nadella. Vendre des tokens seuls ne constitue pas un modèle d'affaires viable. The iGrid ajoute une dimension concrète. Les forfaits à $20 sont un modèle en fin de vie. OpenAI perd déjà de l'argent sur son plan pro à $200, GitHub Copilot bascule vers une facturation à la consommation et la pression des investisseurs post-IPO devrait remodeler la logique tarifaire dès 2026. Changement de registre maintenant, côté outils et pratiques. BenAI présente cette semaine le DLOP Skill, un système de contrôle qualité en 2 passes pour les outputs d'IA. Première passe, détection des patterns universels de l'IA slope, les tirer en excès, les contradictions, les approximations factuelles. Deuxième passe, critères propres à l'entreprise, tonalité, identité de marque, cohérence stratégique. 3 sous-agents évaluent indépendamment, un log DLOP trace les patterns pour analyse à l'échelle de l'organisation. Neural9 présente de son côté le skill Claude Code Ponytail, qui force les agents à des réponses minimales et directes. Particulièrement utile quand on apprend un nouveau framework comme a LangGraph et qu'on n'a pas besoin de 5 paragraphes de bonnes pratiques pour un exemple de base. Et Nate Herc clarifie dans une vidéo dédiée la structure fondamentale des agents loops, un trigger, une action, une condition d'arrêt. 3 architectures possibles, solo loop, maker checker ou manager avec assistant. Son avertissement pratique, un loop sans critère de fin clair peut tourner indéfiniment et ses propres loops durent généralement entre 30 minutes et quelques heures. Dans le domaine du knowledge management, Niklas Tinfat rapporte un phénomène inattendu. PewDiePie a lancé un projet open source appelé Odysseus qui a atteint 65 000 étoiles sur GitHub en quelques jours. C'est une interface de chat auto-hébergée avec upload de documents, intégration calendrier, édition d'images et email qui tourne via Ollama Cloud plutôt qu'une GPU locale. Un compromis pragmatique entre souveraineté des données et praticité. Ce qui est remarquable ici, ce n'est pas la technologie en elle-même, c'est qu'un créateur avec 100 millions d'abonnés positionne l'IA décentralisée comme une alternative aux géants. Sur le terrain des agents et de l'automatisation, 2 approches s'affrontent cette semaine. Cole Médin critique le terme « loop engineering » comme du marketing creux. Sans fichier de workflow déterministe, sans durabilité via une base Postgres et sans contrôle explicite des coûts, les loops deviennent vite incontrôlables et ruineux. Son contre-modèle s'appelle Archon, open source, avec un dashboard via Retool. À l'opposé, Omnigen de Databricks propose une méta-harness qui orchestre plusieurs agents existants. Claude Code pour l'implémentation, Codex pour la revue, avec 2 orchestrateurs d'exemples livrés d'emblée, Poly et Debi. Dave Ebellar présente, lui, son stack 2026. Python, avec FastAPI et Celery, PostgreSQL via Supabase, React avec Vite et Shadcan UI, accès direct aux API LLM, Docker sur Railway ou Hetzner. Son argument, Ces couches établies depuis des décennies sont plus stables que les outils individuels qui apparaissent quand ces disparaissent. Du côté des modèles, GLM 5.2 de Xi a dominé les discussions open source cette semaine. Licence MIT, 1 million de tokens de contexte, et selon plusieurs tests indépendants, des performances comparables à Claude Haiku 5 et GPT 5.6 Pro sur certains benchmarks de design front-end. Nick Saraev l'a comparé à Opus 4.8 sur 7 démos visuelles et conclut que GLM a actuellement plus de goût, un style plus affirmé, pour un cinquième du prix. Nate Herc montre comment l'utiliser directement dans Claude Code via ZAI comme provider, un simple engine swap dans les paramètres. Kimi K2 Pincette. Code de Moonshot AI est aussi dans la course. Environ 1 milliard de paramètres en Mixture of Experts, 30% de meilleure exécution des instructions par rapport à K2.6, mais un contexte limité à 262 000 tokens qui déçoit pour un modèle de cette taille. Alejandro Ao a testé une stratégie intéressante. Utiliser GPT 5.5 ou Opus comme planificateur et Kimi comme implémenteur. 7 fois moins cher pour une qualité quasi équivalente. Et les fuites autour de GPT 5.6 se précisent en budget de raisonnement à 960 jusqu'à 1,5 million de tokens de contexte, intégration Playwright pour l'automatisation web, attendue fin juin selon World of AI. Un mot sur SubQ, signalé par The iGrid. Un modèle de langage avec une architecture d'attention sparse entièrement subquadratique, 56 fois plus rapide que Flash Attention 2 sur 1 million de tokens, avec une fenêtre de contexte de 12 millions de tokens. Les chiffres sont impressionnants. 100% de précision sur le test Needle in the Haystack jusqu'à 2 millions de tokens. Mais la vérification indépendante est encore absente, les poids du modèle ne sont pas publics, et l'architecture montre des faiblesses connues sur les prompts courts du quotidien. À surveiller, mais avec prudence. Quelques notes rapides pour finir. Melvinks a migré toute sa plateforme CodeLine de Next.js vers TanStackStart. Plus de 100 000 lignes ajoutées, 129 000 supprimées. Et son argument le plus convaincant n'est pas la vitesse de build, réduite de 3 minutes 30 à une vingtaine de secondes, mais l'IA friendliness. TanStack est déclaratif et suit les standards de web, donc les agents génèrent du code plus cohérent. Léon Van Zyl a construit un prototype jouable inspiré de GTA avec Claude Code et le plugin MCP pour Unreal Engine, NPC, véhicule, arme, data, en 80-12 heures de travail agent. Chronophage, mais révélateur de ce qui attend le développement de jeux indés. Et Melvinks partage honnêtement un autre problème cette semaine. Il a dépensé 4 300 $ en API en une semaine et jouer 340 et une partie d'échecs pendant que ses agents tournaient. Son diagnostic est lucide. L'automatisation crée du temps creux qui érode la concentration. Ce qui reste de cette semaine, au fond, c'est une question que l'affaire Fable a rendue soudainement très concrète. À qui appartient l'intelligence artificielle de pointe et qui décide qui y a accès? On a longtemps parlé de démocratisation de l'IA. Ce qu'on voit émerger ressemble davantage à une stratification. Entre pays, entre utilisateurs, entre ceux qui contrôlent la harness et ceux qui dépendent d'elle. L'architecture technique et l'architecture du pouvoir sont en train de se confondre, et personne n'a encore vraiment répondu à la question de ce que ça signifie pour le reste d'entre nous.